VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Bion, bonjour à tous. Il est 11h à Abidjan, Côte d'Ivoire, en temps universel. Les 289 personnes détenues pour des faits liés à la crise anglophone au Cameroun, graciées jeudi par le président Paul Biya, seront libérées ce vendredi, a annoncé le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le ministre a précisé dans son communiqué que cette mesure concerne uniquement les personnes dont l'examen approfondi des dossiers devant les juridictions militaires et les dossiers d'enquête en cours ont fait ressortir des charges d'une amplitude de gravité relative. La clémence présidentielle ne concerne pas les criminels, les assassins et autres dangereux terroristes, ni les commanditaires et planificateurs de la pernicieuse crise sécuritaire en cours dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a ajouté le ministre. En République démocratique du Congo, à une semaine de la clôture de la campagne électorale, le ticket Félix Tshisekedi Vital Kamerhe a tenu un meeting devant des centaines de milliers de personnes à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental. Emmanuel Ramazani Chadari, le candidat du pouvoir en place, a fait Arou et Mahagi dans la province de l'Ituri, alors que Martin Fayoulou, celui de la coalition Lamouka, se dit bloqué par le pouvoir à Goma, dans le nord Kivu. Les détails avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires à Kinshasa.
Une fois au pouvoir, nous commencerons par la relance de la MIBA et l'amélioration de la vie sociale de la population, ont déclaré Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi devant plusieurs centaines de milliers d'habitants de Mbujimayi. Je sais qu'il n'y a ici pas d'eau ni d'électricité. La MIBA est en faillite, il n'y a aucune route en bon état, il y a un problème de scolarisation de nos enfants. Nous les réglerons une fois élus, a poursuivi Félix Tshisekedi, candidat du ticket CAP pour le changement. Pendant ce temps, Martin Fayoulou est resté bloqué à Goma dans le Nord Kivu. La campagne électorale n'est pas équitable. Qu'on nous laisse faire notre campagne, a souligné le candidat de la coalition Lamouka, qui, lors d'un point de presse, a raconté à la presse comment il a été empêché par le pouvoir en place de se rendre à Kindu puis à Kolwezi. De son côté, le candidat du Front commun pour le Congo était jeudi à Arou et à Mahagi, deux territoires de la province de l'Ituri. Emmanuel Ramazani Chadari y a poursuivi son opération séduction et a appelé la population à voter pour lui pour un Congo meilleur. Il est attendu à Kisangani ce vendredi. Un autre candidat président de la République, le Premier ministre honoraire Sami Badibanga, vient d'annoncer par Matadi le lancement de sa campagne électorale à moins de deux semaines des élections. Kinshasa, Thierry Kamboundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Amnesty International demande à l'ONU de mener une enquête approfondie sur l'attitude de ses troupes en Centrafrique lors d'une attaque menée à la mi-novembre par un groupe armé contre des civils à Lindao, dans le centre du pays, qui a fait jusqu'à 100 morts. Selon plusieurs témoins sur place, les soldats de la paix de l'ONU n'ont pas répondu à une attaque d'un groupe armé, mais se sont au contraire retirés, laissant des milliers de civils sans protection dans le camp de déplacés où ils résidaient, affirme Amnesty dans un communiqué. L'ONG de défense des droits de l'homme réclame en conséquence une enquête immédiate et impartiale qui doit en particulier se concentrer sur le rôle des soldats de la mission de paix de l'ONU en Centrafrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
La suite de ce journal, Henri Konabédié est président du principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Le PDCI affirme avoir l'accord de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une alliance en vue de l'élection présidentielle de 2020 dans une interview sur France 24. Le PDCI était jusqu'au mois d'août l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains RDR du président Alassane Ouattara, mais l'alliance a volé en éclats. M. Bédié a également invité une autre figure de proue de la politique ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, à rejoindre sa plateforme. Dans l'ouest du Niger, selon les Nations Unies, quelques 52 000 personnes ont été forcées de se déplacer depuis janvier dans les régions de Tillabéri et Tawa. Cette zone frontalière du Mali est le théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes. Nani Talani.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés indique être vivement préoccupé par la persistance de la violence dans les zones frontalières du Niger, jouxtant le Mali et le Burkina Faso, qui a forcé 52 000 Nigériens à fuir leur foyer au cours de cette seule année. Cette partie, appelée la zone rouge, est le théâtre d'effroyables violences de groupes armés qui tuent, enlèvent des civils, brûlent les écoles et pillent les maisons, les entreprises et le bétail. Ces menaces empêchent la distribution de l'aide à l'ensemble des personnes dans le besoin, regrette le HCR qui dénonce une situation à la fois alarmante et extrêmement instable. En juillet et octobre, des corridors humanitaires négociés avec la force conjointe du G5 Sahel et les forces nigériennes avaient permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres à plusieurs milliers de déplacés dans la zone rouge.
Merci Danit. Les États-Unis vont accroître leurs investissements en Afrique pour contrecarrer les offensives chinoises et russes. C'est ce que déclare John Bolton, conseiller présidentiel en matière de sécurité nationale, qui était l'invité du groupe de réflexion Heritage Foundation pour discuter de la stratégie africaine de l'administration Trump. Compte rendu, Abdourahman Dia.
Washington n'entend pas laisser le champ libre à Moscou et à Pékin qui mènent des offensives en Afrique. John Bolton, conseiller à la sécurité nationale.
Nos grands rivaux que sont la Chine et la Russie développent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Ils investissent délibérément et de façon agressive pour devancer les États-Unis sur le continent. Entre 2016 et 2017, l'investissement direct chinois a atteint 6,4 milliards de dollars.
La Chine en a pris pour son grade. John Bolton l'accuse de favoriser la corruption en Afrique en facilitant des prêts à des pays qui ne respectent pas les normes démocratiques et les droits humains, qualifiant de prédatrices ces pratiques qui créent une relation de dépendance économique entre Pékin et le continent.
China uses bribes.
La Chine utilise des pots de vin, des accords opaques et utilise la dette pour tenir les États africains dépendants des demandes et de la volonté de Pékin. Ces investissements vont avec la corruption et ne respectent pas les mêmes normes environnementales et éthiques que les États-Unis.
John Bolton donne l'exemple de la Zambie qui doit 6 à 10 milliards de dollars à la Chine. Conséquence, Pékin pourrait prendre le contrôle de la Compagnie nationale d'électricité pour rentrer dans ses fonds. En contraste, Washington propose un partenariat gagnant-gagnant qui favorise les intérêts économiques et sécuritaires des États-Unis et le développement de l'Afrique. Mais John Bolton insiste sur le bon usage de l'argent du contribuable américain.
Désormais, nous n'allons plus tolérer cette pratique de l'aide de longue durée sans résultat. Il n'y a pas d'assistance sans responsabilité ni d'aide sans réforme.
John Bolton a été plus clair sur l'utilisation de l'argent du contribuable. Selon lui, l'administration américaine ne va plus permettre que les impôts durement payés par les Américains servent à aider des autocrates corrompus à remplir leurs coffres aux dépens de leur population ou pour commettre de graves violations des droits de l'homme. John Bolton a annoncé la mise en place d'une politique dite « Afrique prospère » qui met l'accent sur l'investissement, la croissance économique et une amélioration de l'environnement des affaires sur le continent.
L'Union européenne va intensifier ses préparatifs en cas d'échec des négociations avec la Grande-Bretagne face aux difficultés rencontrées par Theresa May pour faire entériner le Parlement britannique l'accord sur le Brexit. La Commission européenne a décidé de préparer un plan B, a affirmé jeudi son président Jean-Claude Juncker à l'issue du sommet européen consacré au Brexit. Selon une source européenne rapportée par Reuters, l'aide des 27 ne pourrait être envisagée que si Mme May revient dans les prochaines semaines avec des propositions précises. Le gouvernement britannique a fixé au 21 janvier la date limite pour que l'accord soit voté au Parlement. VOA Afrique, les autorités turques ont émis aujourd'hui des mandats d'arrêt contre plus de 200 militaires, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu, alors que les purges lancées après une tentative de coup d'État en 2016 se poursuivent à plein régime. Ces militaires sont soupçonnés par les autorités turques d'être liés au mouvement du prédicateur Fethullah Gulen, bête noire du président Recep Tayyip Erdogan, qui l'accuse d'être derrière la tentative de putsch du 15 juillet 2016. Et puis une force syrienne dominée par des combattants kurdes et soutenue par les États-Unis a chassé aujourd'hui le groupe djihadiste État islamique de Hajin, principale localité de son ultime réduit dans l'est de la Syrie en guerre, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Le secteur contrôlé par l'État islamique dans cette région Iran de Syrie, également appelée la poche de Aden, est le dernier réduit du califat autoproclamé en 2014 par le groupe djihadiste sur des régions conquises en Syrie et en Irak. Point final à ce journal. Le prochain, c'est dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.